19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir tout le monde, la vie est difficile, mais parfois il y a de la lumière et il y a une bonne nouvelle, comme par exemple d'accueillir Hervé Le Tellier dans conversation chez La Pérouse dès maintenant, dès à présent, en face de moi, sur Radio Classique. Bonsoir Hervé Le Tellier, merci beaucoup.
Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir.
D'être venu converser nonchalamment pendant une heure sur toute votre œuvre et notamment sur votre dernier livre, Le Nom sur le Mur, qui paraît aux éditions Gallimard. Vous êtes né en 1957 à Paris.
Oui.
Vous ne démentez pas cette information.
Non, c'est, tout est vrai.
Et c'est votre premier roman, récit important, après le prix Goncourt de L'Anomalie en 2020, qui a été un succès historique, massif, dont vous vous remettez difficilement.
Ah bon ? Ça a l'air affirmatif. Non, je m'en remets à peu près bien. On n'est pas tout à fait responsable du succès des livres.
Non, mais c'est quand même, je trouve, une très belle manière de gérer ce succès, de publier ce livre, Le Nom sur le Mur, qui est un récit vrai, une enquête réaliste sur quelqu'un qui a existé. Je pense que si vous avez su gérer l'après Goncourt, c'est parce que vous l'avez obtenu pour votre 28e livre, oui, c'est ça.
Oui, ça aide de l'obtenir tard. C'est-à-dire, voilà. Je pense que ça peut altérer une, entre guillemets, carrière, fermez les guillemets, d'écrivain. Si on l'a très jeune, moi je l'ai eu effectivement tardivement, après une production de choses très très diverses.
Très diverses, on va en parler, oui.
Et ce livre-là, elle était également, c'était une sorte de tentative de faire un best-seller pour m'amuser.
Oui, ça mais a marché. C'est ça qui est dingue, c'est que vous l'avez calculé, ce succès.
C'est pas vraiment, le succès n'a pas été calculé, mais en tout cas le livre était fabriqué sur des codes,
oui.
Que je m'étais amusé un peu à reproduire et...
Les codes de la série télé, notamment.
Les codes de la série, oui, les codes du cinéma, oui. Même. Et puis aussi, peut-être, les codes des systèmes de relance intérieure de livres qui, lorsque j'étais adolescent, m'avaient plu, que ce soit Jurassic Park, que ce soit King, oui. Et qui me décevaient par certains aspects, qui étaient les aspects littéraires très anglo-saxons, dans lesquels on s'en moque un peu. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est la narration. L'important, c'est la structure... La structure fictive, ce sont des choses comme ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'était justement travailler sur différents genres au sein du livre.
Ouais.
Et c'était presque un livre expérimental en même temps.
Bien sûr, un peu de polar, un peu de SF.
Un peu de polar, de SF.
Beaucoup de personnages.
De la comédie romantique, du drame.
Un crash aérien.
Toute une série de choses qui appartiennent au topos de notre univers depuis Y a-t-il un pilote dans l'avion, en gros.
Voilà.
Et qu'on aime bien reproduire. Et je ne m'attendais pas du tout, effectivement, ni au Goncourt, parce que ce n'est pas quelque chose pour lequel on travaille, on ne se dit pas qu'on va avoir un Goncourt. Et je ne m'attendais pas non plus au succès historique, effectivement,
du
livre.
Incroyable. Plus d'un million d'exemplaires.
Oui, plus que ça, en fait. Plus, ouais. C'est-à-dire, entre le poche, le brochet, les livres audio et le numérique, ça fait beaucoup.
Oui.
La question qui peut se poser, qui, à mon avis, est intéressante presque au niveau économique, c'est comment est-ce que ça peut se produire ? Qu'est-ce qui fait qu'un livre peut avoir un succès pareil ? J'avais beaucoup enseigné l'économie de l'édition quand j'étais enseignant chargé de cours, comme on dit, à la fac. Et j'enseignais l'économie des best-sellers. Et je me suis surpris.
Tout vient de là.
Tout
était planifié, je le savais.
Tout vient de là. Et donc, quand on enseigne ça, on voit à quel point d'abord c'est imprévisible. Mais totalement imprévisible, il n'y a pas de recette. Et ensuite, combien ça peut transformer la vie d'un auteur ? Parce que ce sont des masses financières qui changent votre statut, qui changent votre niveau de vie, c'est vrai. Et puis aussi parce que ça procure une certaine, non pas une liberté, parce que cette liberté, je l'avais avant, mais en tout cas une certaine aisance pour envisager des choses qu'on n'a pas forcément... dont on ne peut pas envisager un véritable succès critique comme celui de l'Anomalie.
Mais l'Anomalie avait le mérite, et vous l'avez expliqué, d'être à la fois littéraire à la française,
oui.
Et en même temps construit comme un best-seller, et c'est ce qui peut-être explique l'efficacité, en tout cas le succès.
Et puis transgénérationnel, ça pouvait être lu par des hommes, par des femmes, par des jeunes gens, par des gens plus âgés. C'était vraiment un livre qui était écrit a priori pour... pour un lecteur implicite qui était moi, à travers tous mes âges.
et tous vos sexes.
Et tous mes textes, donc ça m'allait très bien.
Vous présidez toujours l'Oulipo.
Je préside encore, oui.
Depuis 2019. L'ouvroir de littérature potentielle, expliquez en quelques mots il s'agit.
En quelques mots, c'est un groupe de travail qui existe depuis 1960, qui réunit des écrivains, des mathématiciens, des métaphysiciens, qui tous s'intéressent à un sujet qui est les rapports entre littérature et structure. Littérature et contrainte, littérature et mathématiques, tout ce qu'on veut qui va dans ces directions-là. Et le Oulipo veut dire ouvrir de littérature potentielle. Donc littérature, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est l'acte volontaire d'écrire, disons. L'ouvroir, c'est le fait de travailler ensemble ou individuellement dans une sorte de système de broderie, un peu comme les dames du XVIIe, XVIIIe. Et puis potentiel, c'est plus compliqué la potentialité, c'est ça, c'est le fait d'utiliser un décalage dans la langue, un décalage dans la structure du récit qui fait qu'on va ailleurs, qu'on va à des endroits qu'on n'a pas prévu d'aller.
En fait, la littérature potentielle, on en fait tous, on espère tous faire de la littérature, mais c'est potentiel, on n'est pas certain qu'on y arrive, voilà.
Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais il y a aussi quelque chose qui, moi, vraiment m'intéresse dans la potentialité de la littérature. C'est cette idée que, parce qu'on s'impose quelque chose, on emprunte des chemins qu'on n'espérait pas ni voir aboutir, ni dont on n'imaginait pas la diversité. Ça amène beaucoup de diversité dans la narration.
Oui, la contrainte rend libre.
Rend libre, oui. C'est Baudelaire, Paul Valéry, Raymond Queneau.
Bien sûr. Votre premier choix musical, c'est Cold Song de Purcell, chanté par le baryton anglais Christopher Purvis en 2011. Je précise que c'est l'acte 3, scène 2 de l'opéra King Arthur en 1691. Et Cold Song, tout simplement parce que l'air du froid parle du pouvoir de l'amour pour décongeler les cœurs. Et voilà, nous avons nos cœurs qui ont été décongelés par Purcell. Je précise que Cold Song, c'est le même choix que Bernard-Henri Lévy, le mois dernier.
Je ne sais pas quoi en conclure.
Ouais, voilà, c'est une remarque. Merci Hervé Le Tellier d'être toujours là pour Le Nom sur le Mur chez Gallimard. Alors, Le Nom sur le Mur, c'est l'histoire d'un type qui s'achète une maison de campagne, ce que font automatiquement tous les lauréats du prix Goncourt. Mais votre narrateur, lui, il veut une maison natale.
Oui, mon narrateur, c'est moi. Je pense que je l'assume, c'est-à-dire... D'ailleurs, c'est une maison que j'ai achetée non pas avec le prix Goncourt, mais à l'occasion d'un héritage.
C'était avant.
C'était avant. D'accord. Je l'ai achetée en 2016 ou 2017. Et c'est une maison que je voulais parce que je ne savais jamais comment passer mes vacances avec mes amis. Ça coûte cher, les vacances. Si j'avais une maison, je passais mes vacances avec eux. C'était pratique. Et donc, j'ai trouvé un relais de poste. Et c'est vrai que je cherchais une maison natale parce que dans un livre qui est publié justement à l'époque où je la cherche, qui s'appelle « Toutes les familles heureuses », j'explique que je ne sais pas comment me rattacher à mon ascendance, comment trouver des racines, qui je suis, qu'est-ce que c'est qui me définit. La question de l'origine m'a toujours intéressé, surtout chez les autres, parce que la mienne ne se pose pas, je ne sais pas d'où je viens.
Vous étiez avec un père absent, un beau-père indifférent,
voilà, c'est ça.
Mère toxique.
Oui, c'est pas un mot que j'ai employé, mais c'est vrai que c'est une définition possible.
C'est le mot qu'on emploie aujourd'hui.
C'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Voilà. Et donc, cette question de trouver une maison natale, ça faisait un ancrage, quoi. Et j'aimais bien cette idée, et en visitant cette maison tout de suite, ça m'a paru être une maison possible pour me trouver des racines potentielles, là aussi.
Oui, voilà. Voilà. Et donc, vous trouvez dans cette maison, sur un mur, le nom d'André Chaix. Et c'est le départ de ce livre qui est une enquête, un peu comme Patrick Modiano sur Dora Bruder. Vous enquêtez sur qui est ce jeune homme, André Chaix. Et je vais vous demander de me lire un extrait de la page 14 pour qu'on se resitue bien.
Je ne savais rien de lui et plusieurs mois ont passé sans que je l'envisage comme sujet d'un livre possible. J'ai posé des questions, j'ai recueilli des fragments d'une mémoire collective, j'ai un peu appris qui il était. Dans cette enquête, beaucoup m'a été donné par chance, presque par miracle, et j'ai vite su que j'aimerais raconter André Chaix. Sans doute, toutes les vies sont romanesques, certaines plus que d'autres. Dans les lettres à Lucilius qui disent l'essence du stoïcisme, Sénèque parle d'un homme qui se trouve au chevet d'un malade. Est-ce son ami qui veut être là dans ses derniers moments, ou bien un vautour qui convoite l'héritage? Le même acte est honteux et honorable, répond Sénèque. Seule l'intention compte. Je me suis interrogé sur la mienne. Je ne suis pas l'ami d'André Chaix. Et l'aurais-je été d'ailleurs? L'aurais-je su l'être? Moi que presque rien ne relie à lui. Juste un nom sur le mur.
Voilà, et c'est le titre du livre. Alors, qui était André Chaix? Il est né en 1924, donc il y a un siècle pile, et mort en 1944, à 20 ans. C'était un résistant armé dans les forces françaises de l'intérieur, comme on dit, mort pour la France, entre guillemets.
Oui.
Et vous avez...
J'ai eu beaucoup de chance, comme je le dis. Oui. C'est-à-dire que son nom était inscrit sur mon mur, mais un jour, en revenant pendant le confinement de la boulangerie, j'ai vu son nom sur le monument aux morts. Et j'ai vu 24-44. Et bon, ça m'a frappé, c'est-à-dire... Je me suis tout de suite demandé comment ce nom était arrivé à être gravé sur mon mur, s'il avait vécu là, si c'était un ami à lui qui l'avait inscrit. Et comme c'était en 2020, le confinement, le temps a passé et puis l'idée du centenaire m'a paru de plus en plus évidente. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un inconnu? Qu'est-ce que c'est qu'un inconnu qui meurt pour la France, comme vous le dites, avec justement ces guillemets « mourir pour la France ». Qu'est-ce que c'est que la France? Et qu'est-ce que c'est que mourir à 20 ans? Et je suis parti un peu à la recherche de qui il était. Et là, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai appelé une association qui s'occupait de la résistance dans la Drôme, qui ne connaissait pas André Chaix, mais qui, au bout de 15 jours, a retrouvé un petit coffret qu'on leur avait confié.
Voilà.
La famille leur avait donné un petit coffret qui s'appelait André et qui parlait d'André Chaix avec sa carte d'identité, sa carte de certificat de travail... des photographies, beaucoup de photographies, une photo de lui avec son frère, son fume-cigarette,
petite
broderie. Et non seulement je trouve tout ça, mais en plus quelqu'un me dit, mais je crois que la fiancée d'André Chaix, qui avait donc 20 ans quand lui aussi avait 20 ans, a eu une fille 2 ou 3 ans après sa mort, donc avec un autre homme, et que cette fille est encore vivante et que tu peux la contacter. Alors j'ai contacté, évidemment, je suis arrivé chez Christiane Jouve, qui m'a très gentiment accueilli, et donné une deuxième enveloppe, qui est une enveloppe qui contenait toutes les photographies qu'elle avait conservées, que lui avait donné sa mère, et qui étaient des photographies d'André Schex. Je me suis demandé qui était cet homme pour que, en gros, 30 ans après la mort de sa mère, sa fille conserve encore des images. Encore,
oui.
Oui, c'est ça.
Bah, d'abord, c'était un beau gosse, hein. Faut le dire.
C'est un beau gosse.
Il a le Dédé, il a une tête à la Gabin
ou
à la Brando.
Oui, il a une tête comme ça.
Un dur à cuire. Et ce qui est original dans votre livre, c'est que c'est pas seulement un récit enquête, mais c'est aussi un album de photos. Il y a des lettres, il y a ses papiers.
Oui, ça n'a de sens que par ça aussi.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un effet de proximité qui nous touche tous, parce que. On a tous des photographies de nos aïeux, d'un grand-père oublié, d'un grand-oncle. Et là, je découvrais une sorte de grand... C'est compliqué, parce qu'il avait l'âge de mon fils. Il est né au moment où, grosso modo, mon père est né, à quelques années près. Donc, il est situé entre le fils et le père. Donc, ça fait quelque chose qui, familialement, est étrange.
Oui, oui, oui.
Et ça m'a tout de suite intéressé de m'attacher à lui, et seule la photographie restituait pour le lecteur cette intimité qu'on m'offrait.
Et c'est plus facile d'écrire sur un type mort à 20 ans que sur Philippe de Gaulle qui est mort à 102 ans.
Hein. C'est un plus petit.
Vous avez choisi, voilà, vous êtes un peu flemmard, vous avez choisi.
J'ai pris le plus simple.
Une courte vie. Une courte vie aurait pu être le titre de ce livre.
Ouais.
Et pourquoi je dis ça ? Parce que vous. Faites un lien aussi avec Piette, une femme que vous aimiez, qui s'est suicidée à 20 ans en 1977.
Oui.
Et du coup, il y a comme un effet de miroir de ce deuil-là.
Je m'en suis rendu compte, en fait, en l'écrivant. Je n'avais pas du tout pris la mesure des affinités qu'il pouvait y avoir entre moi et finalement Simone, la fiancée de Schex, qui voit disparaître à la fois son père 2 mois plus tôt et son fiancé en août 1944. Et en l'écrivant, je me suis rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles ce deuil m'intéressait, cette histoire m'intéressait, c'était aussi sans doute un peu cette proximité que je pouvais avoir avec cette jeune femme. Et peut-être qu'une chose qui m'intéressait aussi, c'était, moi qui n'ai pas vraiment eu de père, de trouver une sorte de, même si c'était un tout jeune homme, de trouver une sorte de figure paternelle assez admirable, même si c'est vrai que je l'écris, à un moment donné, il n'avait pas grand choix que celui d'être brave. Il y a une sorte de courage presque ontologique à cette génération qui peut être courageuse de tous les côtés, d'ailleurs. Il y a des gens courageux qui s'engagent dans la Waffen-SS et il y a des gens courageux qui s'engagent dans la résistance. Après, on peut juger de la qualité des choix. La question n'est pas là. Mais,
vous le faites, d'ailleurs. Vous le faites.
Oui, je le fais.
Vous clarifiez votre position.
Je le fais. La psychologie intime d'un Lacombe Lucien et d'un André Schex, parce que vous avez mentionné tout à l'heure Dora Bruder,
oui.
Mais au fond, je pense autant à Dora Bruder que je peux penser à Lacombe Lucien, le film de Louis Malle, dont Modiano est le scénariste.
Oui.
Et pour
qui
moi.
Qui raconte l'histoire d'un collabo.
Et qui raconte l'histoire d'un collabo qui, effectivement, a 17 ou 18 ans et qui bascule parce qu'on ne veut pas lui dans la résistance. Donc, ce sont des histoires qui m'intéressent parce qu'aussi, je pense qu'elles m'ont fondé. J'appartiens à cette génération d'auteurs qui est venue à la politique à partir du moment où on a pu voir Nuit et brouillard, où on a commencé à lire des livres comme La place de l'étoile, comme La mort est mon métier de Robert Merle, ou La danse de Gengis Khan de Romain Gary, que j'avais totalement trouvé fascinant quand je l'avais lu. Donc j'appartiens à cette génération d'auteurs qui sont nés longtemps après la guerre, mais pour qui cette guerre a été vraiment fondatrice, dans le sens où on a cherché à comprendre pourquoi nos parents, pourquoi nos grands-parents avaient été soit silencieux, soit collabos, soit acteurs de la résistance. C'est compliqué.
Oui, et d'ailleurs, c'est plus que ça, parce que vous dites 80 années ont passé, mais je ne doute pas qu'il faille toujours parler de l'occupation, du fascisme et du rejet de l'autre jusqu'à sa destruction. C'est un livre aussi sur qui résonne avec la France d'aujourd'hui, bien sûr.
Oui, c'est bien sûr. Je m'en suis évidemment rendu compte en l'écrivant. J'ai été tout à fait étonné et un peu navré de voir qu'au moment où il y a un défilé contre l'antisémitisme, on laisse défiler des membres d'un parti fondé par des anciens Waffen-SS et que ça ne pose pas trop de problèmes, finalement, même si certaines familles s'y opposent. On voit bien qu'il y a une sorte d'oubli. Et Je pense que, je ne sais pas si les livres sont nécessaires pour s'en souvenir, mais en tout cas, ça m'était impossible pour moi de parler d'André Chex sans un tout petit peu mentionner les engagements et ceux contre qui il se battait. Mmh. Or, une chose m'a frappé aussi, je le savais, mais au fur et à mesure que j'enquêtais, je découvrais la mesure de la chose, c'est la manière dont il y a une sorte d'oubli organisé de la collaboration, une organisation de l'absence de punition, parce que sinon la France aurait été trop désorganisée, tout comme l'Allemagne aurait été impossible à gérer sans la collaboration des anciens nazis.
Ça, c'est vraiment intéressant, ce passage-là, parce que vous parlez de l'amnistie de 1953. Aucun criminel de guerre n'a été puni, en gros. Hein. Les massacreurs ont été libérés ou recyclés, comme Von Braun aux États-Unis. Et alors, il y a à la fois ça dans votre livre, et en même temps, vous avez cherché des soldats allemands nés en 24 et morts en 1944. Pourquoi ? Pour montrer qu'il y avait aussi des jeunes gens de 20 ans qui sont morts en face.
Ce sont des destins qui sont des destins tragiques. Je pense que la douleur des familles allemandes n'est pas moindre que celle des douleurs des familles françaises.
Puis, de toute façon, c'était des gens qui avaient été enrôlés.
Et ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que quand on rentre... Pour la Waffen-SS, c'est un peu compliqué parce que ça procure des avantages, sont des avantages financiers, des avantages hiérarchiques que ne procure pas la simple Wehrmacht. Mais les jeunes gens embauchés dans la Wehrmacht, ils le sont de force à partir de l'âge de 18 ans, puis ensuite à l'âge de 15 ans. Et ils ont été enrôlés dans les Hitlerjugend, dans les jeunesses hitlériennes, extrêmement jeunes également, à l'âge de 10 ans, puis à l'âge de 12 ans, ils sont rentrés dans des organisations paramilitaires. Donc, ce sont des jeunes gens qui sont calibrés, qui sont fabriqués pour adhérer aux idéologies diverses du Troisième Reich. Donc, ça m'intéressait de ne pas passer à côté de ces destins-là, parce que, même si je le fais assez brièvement, parce que je trouve que c'est pas un drame partagé, parce qu'il constituait la matière et les forces vives de l'occupation et du nazisme. Mais ils en étaient aussi la chair à canon.
C'était aussi des malgré nous.
Voilà.
Ce projet, en fait, c'est de personnifier la guerre, je crois. C'est-à-dire de transformer une statistique en destin particulier.
Oui.
Et ça, c'est l'essence même du roman. Je sais que je parle avec un grand théoricien littéraire, donc c'est pour ça que je pose des questions un peu qui font
culturel. Oui. Je ne suis pas sûr que l'individualité fasse systématiquement le roman, mais ce qui est sûr, c'est que le nœud du roman, c'est le personnage. Et donc, j'avais un bon personnage. Même si ce n'est pas un roman, j'avais un bon personnage. J'en avais conscience. Mmh. Et la question qui se posait à moi, c'était est-ce que j'en fais un roman ou pas ? Et c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on peut très bien, et ça n'est pas indécent, faire d'un personnage ayant vraiment existé un personnage de roman. J'ai fait le choix, qui est un choix qui me semblait... légitime et que je pouvais assumer, qui était d'en faire un personnage ayant vraiment existé, de ne pas aller trop au-delà de ce que je pouvais imaginer à partir des lettres que j'avais entre les mains, à partir de ce qu'il écrivait au dos des lettres, à partir de ce qu'écrivait Simone au dos des lettres, à partir des doutes qu'ils pouvaient avoir sur leur vie commune future. Et à partir de ça, j'ai raconté leur histoire avec un peu d'imagination, mais sans fabuler.
Moment, vous imaginez qu'il aurait pu être le cinquième frère Jacques.
Oui, ça, c'est pour des raisons très légitimes aussi, parce qu'il se trouve que dans le village où il est né, donc le village où j'ai ma petite maison, qui s'appelle Montjoux-la-Payette, se trouve un des frères Jacques. Se trouve François Soubéran, qui est le plus grand des frères Jacques, qui a seulement 50 plus, donc ils se connaissent forcément, qui fait aussi de la céramique, et qui d'ailleurs va retourner faire de la céramique après avoir été un des frères Jacques dans le même village. Il va retourner y faire de la céramique, alors que André Chex fait de la céramique également. Donc ils ont beaucoup de points communs. Et évidemment, on peut imaginer que, tout comme François Soubéran va remonter comme résistant, parce que lui aussi est FFI, lui aussi va remonter à Paris, mais il va rester à Paris en 1944. Et il va devenir un des membres du Quatuor.
Donc peut-être que si André Chex n'avait pas été tué par une colonne de chars allemands le 23 août 1944 dans le Maquis, eh bien il serait devenu le cinquième frère Jacques et il aurait fait l'Olympia.
Voilà, bon, c'est possible, pourquoi pas.
Votre deuxième choix musical, ce sont les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach par Glenn Gould, évidemment.
Thank you.
C'était donc Glenn Gould qui chante en même temps qu'il joue Jean-Sébastien Bach, les variations Goldberg. Eh bien, je vous retrouve juste après ces quelques messages.
Ce soir, à 20h, Renaud Capuçon s'empare du concerto pour violon de Samuel Barber aux côtés de l'Orchestre National de Cannes. Sous la direction de Benjamin Lévy, l'orchestre poursuit son exploration anglo-américaine avec Korngold et la symphonie numéro 3, dite écossaise, de Mendelssohn. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
Karina Septi, vous êtes DG de Robert Walters Management de Transition, un succès depuis 20 ans.
Chaque entreprise est amenée un jour à accélérer sa transformation, gérer une crise ou remplacer sans délai un dirigeant. Chez Robert Walters Management de Transition, nous déployons des managers expérimentés pour répondre à vos besoins ponctuels et urgents. Chaque contexte est unique, parlons-en.
Les Effacés, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. En Galice, un tueur kidnappe des femmes qui partent tôt au travail. À Madrid, un assassin s'en prend à des milliardaires. Deux tueurs, deux mondes. Et pour Lucia Guerrero, de la Guardia Civile, une situation explosive. Les Effacés de Bernard Minier, un livre XO.
Seconde école de Vienne et soliste d'exception pour un concert symphonique des siècles en résidence au Théâtre des Champs-Élysées. Renaud Capuçon et Jean-Efflam Bavouzet, sous la baguette de François-Xavier Roth, interpréteront le concerto de chambre de Berg. Au programme également, une création du jeune compositeur argentin Alex Nantes, premier lauréat du prix Pizarre, ainsi que le poème symphonique de Schoenberg, Péléas et Mélisande. Les siècles, Berg, Schoenberg, mardi 30 avril au Théâtre des Champs-Élysées. Réservation sur théâtrechampselysees.fr.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. De Venise à Athènes, en passant par Dubrovnik, je vous invite avec Radio Classique au 9e Festival de Piano en Mer sur un yacht ponant à taille humaine avec Jean-Philippe Collard, David Kadouch, Natalia Milstein, Andrei Korobeynikov, Guillaume Bellhomme et la toute jeune Nour Hayadi. 6 récitals de haut vol pour célébrer l'amour du piano.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
L'Opéra de Massy présente Norma, sommet du bel canto signé Bellini. Norma, prêtresse, amoureuse, bafouée. Sous la baguette inspirée de Constantin Ruitz, les artistes d'exception de la compagnie lyrique Opéra 2001 et les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Massy vous feront revivre ce drame passionnel dans une mise en scène classique de Aquiles Machado. Venez applaudir pour 4 représentations Norma du 25 au 28 avril à l'Opéra de Massy. Plus d'infos sur opera-massy.com.
Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec le calendrier économique d'eToro et TradingView, vous pouvez trader plus intelligemment. Téléchargez eToro aujourd'hui. eToro est une plateforme d'investissement multi-actif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Dans un instant, la suite de votre programme sur Radio Classique.
Découvrez l'incroyable destin de May Dodd, une héroïne hors du commun. 1877, May quitte le camp des Cheyennes pour retrouver ses enfants que leur père lui a arrachés des années auparavant. Avec cette traversée de l'Amérique du Nord au Sud, Jim Fergus nous livre une épopée romanesque, véritable symbole d'une lutte face à l'oppression. May et Chance, de Jim Fergus, est disponible aux éditions Pocket.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse, avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
Je suis toujours avec le grand Hervé Letellier, président de l'Oulipo, prix Goncourt 2020 pour son nouveau livre « Le nom sur le mur » chez Gallimard. Donc, est-ce que vous pensez que c'est André Schex qui a écrit son nom sur le mur puisqu'il faisait de la céramique, il a peut-être juste signé votre maison ?
Non, je pense que je n'ai aucune idée qui a écrit sur ce mur. J'ai essayé de déduire, je pense que c'est peut-être son frère. C'est ce qui me paraît le plus plausible. Mais rien ne le prouve. Rien ne prouve que ça soit écrit après sa mort. Ça pouvait très bien avoir été écrit avant. Je pense que s'il avait été écrit avant, le propriétaire aurait quand même recrépi par-dessus en engueulant André Schex. Mais je pense que c'est peut-être une explication. Ça serait son frère qui, en colère, avant l'inscription sur le mur, sur le, sur, sur le, Monument aux morts a pu effectivement l'écrire sur ce mur. Mmh.
En tout cas, c'est un très très beau livre, Le nom sur le mur, très émouvant, et cette espèce d'enquête comme ça qui démarre de manière romanesque et où tout est vrai, et où on voit ce jeune homme qui va se sacrifier pour la patrie, pour la liberté. C'est un livre urgent en ce moment, et même si c'est banal de dire ça, je le dis quand même. Nous avons un jeu dans cette émission qui s'appelle « Devine tes citations ». C'est un jeu tout à fait oulipien, parce que je sais que je parle à quelqu'un qui était au Papou dans la tête sur France Culture pendant 30 ans. Vous savez que j'ai participé une fois au Papou dans la tête ?
Mais oui.
Vous vous souvenez ?
Oui, je m'en souviens.
Eh bien, personne ne s'en souvient à part vous.
Ah bon ? Non, je m'en souviens. C'était une émission en public. C'était à la Maison de la Radio,
je pense. À la Maison de la Radio. Voilà. Oui. Enfin, vous ne prenez pas de grand risque en disant que c'était à la Maison de la Radio.
Non,
c'était souvent à la Maison de la Radio.
Non, c'était une fois sur trois à la Maison de la Radio. On était souvent en province, invités. Oui,
Les Papous dans la tête, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, était une émission de jeux littéraires, de jeux verbaux.
Assez culte.
Oui, et où j'étais très honoré de participer une seule fois, en n'étant jamais réinvité, ce qui n'est pas bon signe. Donc, devine tes citations, je vous lis des phrases de vous que vous avez écrites au fil de votre œuvre, et vous devez deviner dans quel livre de vous vous avez dit ça.
Genre, il entra.
Voilà, bonne chance. Le vrai pessimiste sait qu'il est déjà trop tard pour l'être.
Oui, ça c'est l'exergue de Victor Meusel pour L'Anomalie.
C'est dans L'Anomalie, donc votre immense succès de 2020, prix Goncourt. Est-ce que... avec la notoriété que vous aviez quand même, avec les papous dans la tête de France Culture, est-ce que vous en aviez marre d'être confidentiel et vous vous êtes dit, tiens, je vais me fixer comme contrainte oulipienne d'écrire un livre populaire ? Vous avez un peu déjà répondu à cette question.
Oui, j'en avais pas marre d'être confidentiel, d'abord parce que j'avais pas trop confiance dans l'idée que la notoriété était quelque chose de positif.
Voilà. Non, tout à fait.
Et puis, la deuxième chose, c'est que je n'avais pas non plus conscience d'une totale invisibilité. je m'en suis rendu compte lorsque j'ai eu le prix Goncourt et que j'ai commencé à signer. Je me suis rendu compte qu'une personne sur 30 avait lu un livre de moi avant.
Oui.
Et là, on prend la mesure quand on vend un livre à 1,5 million, qu'effectivement, même quand on a vendu à 50 000, ce qui est beaucoup pour
oui,
un auteur,
beaucoup,
énorme. Et ben ça représente une personne sur 30.
Oui, là, c'est voilà. Vous êtes devenu une star. Deuxième phrase de vous. L'amour, c'est ne pas pouvoir empêcher le cœur de piétiner l'intelligence.
Je pense que c'est aussi dans L'Anomalie.
C'est aussi dans L'Anomalie, c'était un piège. Ouais. Et je trouve que vous avez un art de l'aphorisme qui vous vient, bien sûr, peut-être...
Ça ressemble beaucoup à une formule de Churchill, en fait.
Ah oui.
Qui est proche de celle-là et qui n'est pas tout à fait celle-là, mais... que j'ai trouvé après et qui je me suis dit j'ai plagié.
Oui, mais c'est pas grave.
Churchill.
Alors ça, moi, je pense toujours à propos des aphorismes que de toute façon, ce sont de vieilles idées qu'on recycle et qu'on reformule de manière nouvelle.
Ah,
donc c'est pas grave.
Mais, non,
mais
non,
c'est vrai
grave,
que c'est assez.
Et puis
bien
nous avons à l'Oulipo un concept qui est le plagiat par anticipation.
Oui.
Donc Churchill est un plagiat par anticipation.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai, il a copié sur vous. Troisième phrase de vous. J'ai essayé de ne pas, même si j'ai parfois eu envie de.
Ça, c'est dans Le nom sur le mur.
Exact. Voilà, 2024.
C'est 2024, et c'est effectivement le moment où je parle du lyrisme, qui est quelque chose que j'essaie d'éviter dans les romans ou dans les livres, parce que je trouve que c'est un égarement esthétique, une sorte de joliesse dans les... J'aime pas ça.
En particulier dans celui-là,
oui.
avec un garçon qui est mort à 20 ans. Et...
Oui, je trouve qu'on peut pas faire... on ne peut pas s'appuyer sur un drame... pour écrire des choses jolies, entre guillemets.
Mais ce n'est pas que ça, cette phrase. J'ai essayé de ne pas, même si j'ai parfois eu envie d'eux. C'est évidemment un hommage à Bartleby.
Bien sûr.
Je préférerais ne pas. I would prefer not to. Hein.
Mais mon fils s'appelle Melville.
Ah, je ne savais pas.
Mais voilà, donc j'ai une grande affection pour
comme,
Melville.
Comme votre idole, Georges Perec, qui avait appelé Bartle Booth un personnage dans la
Absolument.
Mode d'emploi. En 78. Donc, vous préféreriez ne pas, mais nous devons quand même continuer cette émission. Une autre phrase. En général, les fiançailles se terminent bien, mais hélas, parfois, les deux parties se marient.
Toujours dans Le nom sur le mur.
Oui, excellent.
Et c'est effectivement un texte que j'avais écrit pour les fiançailles d'une amie.
Alors, c'est pas possible, ça. Mais comment vous... Donc, on vous demande un discours pour des fiançailles, ouais, et vous écrivez que parfois, hélas, les deux parties se marient.
Oui.
Vous êtes un monstre, Hervé
Le
Tellier.
Oui, non, c'est... Les fiançailles sont des moments plutôt amusants. C'est des choses où on peut quand même... voilà, c'est pas... Ça me rappelle une amie qui, sans faire exprès, lorsqu'elle se marie, au lieu de me présenter son mari, me dit « Je te présente mon premier mari. » Et ça lui a totalement échappé. C'est-à-dire une sorte de notion...
comme le plagiat par anticipation. Voilà, c'est le divorce par anticipation.
Voilà.
Non, mais cela dit, j'ai choisi cette phrase parce que vous aimez le sarcasme. Mais alors, dans Le nom sur le mur, plus du tout. C'est peut-être votre premier livre complètement sérieux.
Oui, c'est un livre sérieux. En même temps, bon, je raconte des blagues quand même. Je raconte deux blagues à André, que j'aime bien, qui sont des blagues. Une sur ce que c'est qu'être un juif, que je trouve assez formidable tellement elle est ashkénaze.
Alors allez-y.
Bah, c'est l'histoire de deux juifs qui se retrouvent devant le peloton d'exécution. Il y en a un qui s'adresse à l'officier allemand et qui lui dit « Je voudrais un bandeau ». Et son copain à côté lui dit « Arrête, fais pas d'histoire ». Et je la trouve tellement formidable sur la manière dont dont les juifs ont tenté de passer inaperçus pendant le nazisme, de se faire discret, que je l'ai mise dans le livre comme une des sortes de réflexion sur ce que c'était que la judaïté dans les années 30 et 40.
N'essayez pas d'expliquer, c'est de l'humour noir, et vous avez eu le Grand Prix de l'humour noir en 2013 pour Compte liquide, et qui était d'ailleurs, alors c'est assez amusant, c'était donc traduit d'un auteur portugais, Jaime Montestrella, qui avait écrit à Paris les Comptes liquides de mai 68 à juin 72, mais qui n'existait pas.
Oui, ou peu. qui existait peu. Voilà.
Mais c'est pour ça que je me suis demandé si André Chex avait été inventé par vous ou s'il existait vraiment.
C'est vrai que j'aime énormément l'idée de la fausse érudition et l'idée de l'invention de personnages. Ça va de Jean-Baptiste Botule, puisque apparemment Bernard-Henri Lévy cite...
Vous avez les mêmes goûts musicaux que Bernard-Henri Lévy.
Voilà. Et apparemment, on a les mêmes goûts philosophiques.
Aussi.
Puisque j'adore Jean-Baptiste Botule et que lui aussi.
Et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas existé qu'on ne doit pas le citer, d'ailleurs.
Absolument. Voilà. Au contraire. J'irais jusqu'à dire que ça serait lui donner plus de chance encore de prendre un peu de matière, un peu de...
Bien sûr. On le rend...
S'incarner.
On le fait exister. Oui,
absolument. C'est le chevalier inexistant de Calvino.
Alors, Eric Satie a vraiment existé et il a composé la Gymnopédie numéro 1, qui est votre troisième choix musical. Et alors, comme indication de jeu, il avait précisé « lent et douloureux ». Thank you.
lent et douloureux, telle est l'indication d'Éric Satie pour jouer la gymnopédie numéro 1, choisie par Hervé Le Tellier. Et nous faisons cet entretien de la même manière. Nous faisons un entretien lent et douloureux ensemble. Mais j'aimerais vous faire entendre une question d'un auditeur.
Des écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Alors, des histoires, il y en a plein à la rue, n'est-ce pas ? J'en vois partout, des histoires. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas ? Et mille histoires.
Vous avez reconnu la voix de Louis-Ferdinand Céline.
Ah, ben c'est Céline, oui, oui. Je me disais aussi, je suis inexcusable.
Non, pas du tout.
Alors que j'en dis du mal dans le long sur le
oui,
mur.
Oui, c'est pour ça, vous dites du mal des écrivains nazis, et vous avez bien raison, il était tout à fait... impossible, cet auteur qui avait du génie littéraire et qui était et qui s'est complètement fourvoyé politiquement. Mais c'est intéressant ce qu'il dit quand même, parce qu'il dit seul compte la forme. En gros, les histoires, il y en a plein, les commissariats. Ce qui compte, c'est le style. Et vous, pourtant oulipien, vous ne pensez pas ça du tout.
Non.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là ?
C'est-à-dire que c'est très compliqué le style, parce que c'est comment dire ? Je suis assez content lorsque des amis me disent qu'on reconnaît dans un livre ma touche ou une sorte de musique que j'aurais dans la rédaction, dans la formulation. Parce que bon, ça veut dire que là, on a fait l'exercice avec justement des petites phrases qui sont issues de mes textes. Si je les reconnais, c'est que j'ai pris un certain temps à les élaborer et que, au fond, ça m'importe de pouvoir assumer entièrement presque chaque phrase d'un livre, en sachant que malheureusement, ou peut-être heureusement, hein, pour ce qui est le déroulé de l'action, il y a des moments où dans un livre, l'action doit avancer, et d'autres moments où la littérature doit être très présente. Et c'est très difficile de combiner les deux. Il y a des moments où vraiment, ça doit se... il faut qu'on avance, que l'action avance, et on voit bien ça chez Malraux, on voit bien ça chez Céline, même des moments où ils ne sont pas littérairement extrêmement puissants, mais parce que l'action doit avancer. Quoi.
Même Flaubert, il dit...
et Flaubert le dit très bien.
Dans un collier, ce qui compte, ce ne sont pas les perles, mais le fil.
Voilà. Et on a besoin de ça, parce que sinon, effectivement, mais où mettre les perles ? Donc, on a besoin que ça avance. Oui, il dit ça dans une lettre à Louis Scollet, d'ailleurs, et ça correspond exactement à la difficulté qu'on peut avoir. Il dit autre chose, d'ailleurs, qui est la difficulté du dialogue. Dans cette même lettre, je crois, il dit quelque chose de la difficulté qu'on a à ce que le dialogue, qui est la vie même, soit littéraire en même temps, et pas trop, pour qu'on ne sorte pas de la réalité de la vie qui est dans une conversation. Donc on est pris dans cette difficulté. Moi, je n'aime pas les écritures trop plates. Je ne vais pas dénoncer, je ne vais pas dire de nom. Je n'aime pas trop ces écritures qui, à aucun moment donné, ne laissent prise à la personnalité de l'auteur. J'aime bien qu'elles surgissent, qu'elles soient présentes. J'aime beaucoup qu'il y ait une présence d'humour aussi. Je trouve que c'est une sorte de politesse. Pas seulement, comme disait Vian, celle du désespoir, mais une sorte de politesse, de complicité par rapport au lecteur. Où, à un moment donné, on lui dit qu'il lit un livre, qu'on est là avec lui, en train de le lire. Et le style... j'ai du mal à le définir. En même temps, il y a des définitions du style qui m'exaspèrent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des poètes que je n'aime pas. Saint John Perse, par exemple, il ne faut pas m'en parler. Ce n'est pas, c'est pas possible, vous voyez. Mais en revanche, je vois bien, pour moi, Aragon est un écrivain qui porte un style formidable. Il y a un style chez Prévert. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut pasticher.
Oui, bien sûr.
Ceux qu'on peut pasticher ont un style. Et souvent, d'ailleurs, le pastiche n'est pas, et c'est ça que j'aime bien, n'est pas seulement le pastiche de l'auteur, mais le pastiche de l'idée qu'on se fait de l'auteur. Et l'idée qu'on se fait de l'auteur est très intéressante. L'idée qu'on se fait de Duras, l'idée qu'on se fait de Modiano, l'idée qu'on se fait de Céline, justement.
Oui. Et c'est des auteurs qu'on peut caricaturer facilement, voilà. Et c'est à ça qu'on reconnaît un style.
Peut-être. Voilà, parce que la caricature, c'est la forme suprême du portrait. Et que donc, puisqu'on peut caricaturer quelqu'un, c'est qu'il a quelque chose qui le tient, quelque chose qui le constitue, qui constitue ses livres. Et donc, à la fois, je suis très méfiant sur ce qu'est le style, et simultanément, je reconnais que des écritures plates ne m'intéressent pas.
Alors, je vais quand même continuer de vous torturer avec des phrases de vous, et là, vous allez avoir très honte. Donc, une citation d'Hervé Le Tellier. Conde. My name is Conde. Joe Conde.
Vous avez tort, je n'ai pas honte du tout de celle-là.
Merci.
Je suis extrêmement fier. C'est dans Je compte jusqu'à 100.
Oui.
Joconde jusqu'à 100, 2019.
Voilà, en réédition qui s'appelle Joconde jusqu'à 100 et plus si affinité.
Et plus si affinité.
Parce qu'il y avait deux livres que je les ai réunis en un seul. Oui, ce sont des petits, justement des petits pastiches et des petits jeux autour de l'idée de précipiter dans différents moments la pauvre Joconde. Et ça, c'est le point de vue. Ce sont des points de vue. Là, c'est... Et ça, c'est le point de vue de l'agent 007.
L'agent 007, My Name is Conde, Joconde, bien sûr. Des paroles de chansons aussi d'Hervé Le Tellier, il en existe. Garde-moi, garde-moi, tu es ma belle page et ma page de garde, tu es mon avant-garde et moi ton arrière-garde. C'est dans quel livre ?
Alors ça, c'est dans Moi et François Mitterrand. C'est une des chansons que le héros, alias Hervé Le Tellier, écrit à Madeleine, sa chérie, pour la garder.
Mais ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. C'est quand même bizarre parce que cette chanson est
c'est
quand même
tellement
formidable.
Belle. Oui, je vais lire la suite. Moi, je te garde corps et je te garde boue, je te garde barrière
et je te garde fou.
Et je te garde fou. C'est grandiose. C'était en 2016 et c'était un spectacle au départ.
Oui, c'est un
théâtre.
Spectacle. C'était une commande de François Morel que finalement François n'a jamais joué, mais qu'il a confié à un acteur formidable qui est Olivier Broche.
De la même troupe de Jérôme Deschamps.
De la même troupe des chiens et qui était
hilarant. Hilarant.
Et qui est le petit personnage qui prend des coups entre Yolande Moreau et François Morel.
Je voudrais vous féliciter, Hervé Le Tellier, parce que vous êtes un des rares invités de cette émission qui a fait un sans faute sur le jeu. Vous avez 100% de réponses positives quand on vous lit des phrases de vous. Ça prouve que vous écrivez vous-même vos livres.
Oui, ou que je lis très bien ce qu'écrivent mes ghostwriters.
Où en est le film ? Il y avait un projet de film adapté de l'anomalie. Est-ce que ça avance ou...
Il y a une série, en fait.
Oui, oui.
C'est plus une série qu'un film, parce qu'on était sur une dimension, sur une distance trop longue pour ça rentre dans un film. Donc on aura 8 épisodes de 52 minutes et ça sera un gros projet qui est un projet donc international avec des partenaires aux États-Unis, en Angleterre pour l'Europe du Nord et pour l'Europe du Sud c'est Canal+.
Waouh,
c'est gros.
Je suis fier d'être en face de vous chez La Pérouse.
Souvent je me regarde avec surprise.
Oui, oui, oui. Mais alors attendez, parce que vous étiez inspiré de la série Lost un petit peu quand même. Donc du coup, si vous faites une série de l'anomalie, est-ce que ça va pas ?
Je m'étais moins inspiré de Lost finalement que de comment dire. En regardant bien ce dont ça parle, il y a un film qui me paraissait vraiment presque proche de ça. C'est un film qui s'appelle Au bout du monde. Comment s'appelle ? C'est Seul au monde.
Seul au monde avec Tom Hanks.
Ce type qui revient après 5 ans.
Oui.
Et dont la vie a totalement été bousculée. Alors là, c'est pas 5 ans, c'est 3 ans, c'est 3 mois. Mais on voit bien qu'en 3 mois, les destins basculent complètement. Et ça m'intéressait de voir comment justement il y a cette bifurcation, cet embranchement qui est pris par certains et pas par d'autres. Et j'aimais bien. Moi, j'ai beaucoup de références cinématographiques. D'ailleurs, je pense que Victor Hugo et Flaubert avaient des références cinématographiques.
Bien sûr, ils avaient
plagié. C'est pas possible d'écrire sans images.
Ils avaient plagié par anticipation. Les Misérables, c'est évidemment copié sur la comédie musicale.
Mais bien sûr.
Ah oui.
Bien sûr. Mais il y a toujours forcément chez un auteur, que ce soit Homer, que ce soit la princesse de. Enfin, que ce soit.
Madame de Lafayette.
Madame de Lafayette, ou que ce soit. Il y a forcément des images que l'auteur essaye, et c'est ça son projet, c'est de fabriquer chez le lecteur de l'image et du son. Et sinon, on n'écrit pas. Si on veut seulement faire des phrases, on n'y arrive pas. Il faut créer de l'image et du son. Et j'avais donné récemment un cours sur un chapitre de Les Misérables, et qui est le chapitre où l'abbé Myriel rencontre, donc l'évêque de Digne rencontre le conventionnel G, au moment où le conventionnel G va mourir, et c'est une scène qui est écrite évidemment au 19e, bien avant que le cinéma soit inventé, mais que tout annonce déjà le travelling, le chant contre chant. Et on ne peut pas douter que quand on le lit aujourd'hui, on a ces images-là en tête, parce qu'elles sont volontairement, insufflées par la démarche hugolienne, par la fiction, par l'écriture. Et chez Hugo, la scène des barricades avec Gavroche... Oui. Le moment du dîner avec Jean Valjean, où il va voler l'argenterie, tous ces moments sont des moments qui sont déjà cinématographiques, alors que rien n'est inventé.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Votre quatrième choix musical, alors on vous a demandé de choisir un morceau de jazz, vous nous avez remis un tango, mais c'est très très beau, c'est Astor Piazzolla, Oblivion, composé en
en quelle année ? 1982, je crois. Merci pour ce très beau choix, Astor Piazzolla. Une dernière question avant de se quitter. Donc finalement, toute votre œuvre est souvent dirigée vers l'absurde, vers l'humour, vers la folie de ce monde. Et puis là, avec le nom sur le mur, vous entrez dans la grande histoire, avec un grand H, avec des millions de morts. Et finalement, je me suis dit que la mort d'un jeune homme de 20 ans, en 44, c'était peut-être le sommet de l'absurdité.
Oui, et en même temps de ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui et qu'on existe. C'est-à-dire que c'est absurde, mais ce n'est pas vain. C'est absurde, son destin à lui est absurde. En plus, il meurt avant la bataille de Montélimar, il meurt la veille de la libération de Paris. Enfin, il meurt à un moment où
il ne fallait pas.
Y compris son combat n'est pas gagné. Quoi. On peut imaginer un retournement, on peut... Tout n'est pas certain. Si Hitler avait, par exemple, découvert la bombe atomique avant les Américains, l'issue de la guerre aurait été changée.
Notre émission aurait eu lieu, mais en allemand.
En allemand.
Oui.
Non, je pense qu'elle aurait eu lieu en français quand même.
C'est
mais
bien.
Avec effectivement des dirigeants au pouvoir qui seraient sans doute très, très différents des nôtres.
Merci infiniment, Hervé Le Tellier, d'être venu discuter pendant une heure. Et merci pour ce livre, Le Nom sur le mur, aux éditions Gallimard, que je conseille à tous nos auditeurs. Également, je remercie toute l'équipe. Philippe Gault, mon producteur, Mathieu Roclago à la réalisation, Jérémy Bigori à la programmation. Je remercie également l'Eau Minérale qui nous a tenu compagnie. Dans un instant sur Radio Classique, le concert du samedi soir avec l'Orchestre National de Cannes, dirigé par Benjamin Lévy et Renaud Capuçon, bien sûr. Je vous dis à la semaine prochaine avec comme invité le docteur Laurent Alexandre, qui nous parlera de la fin de l'espèce humaine. Excellent week-end.
Enfin.
Excellent week-end à tous.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec Le Figaro Magazine.